Bonjour Catherine Sauva.
Bonjour.
Je voudrais démarrer sur une citation que vous rapportez, page 26 de Ils sont-elles. C'est Claire de Duras qui parle et elle dit « L'indépendance des idées est une chose que le monde ne pardonne point aux femmes ». C'est un peu ce qui sous-tend tout le propos du livre, non ?
Ben, le ton est donné, là, effectivement. C'est une femme qui est assez typique ou atypique, selon. Elle ne va pas vouloir vraiment signer tout de suite. Elle va signer par la suite parce que tout le monde a le lui demander. Mais elle fait partie de ces femmes à son époque pour qui il était impensable d'écrire un livre et de le signer parce que tout simplement ça ne se faisait pas. Bon, là on est au début du 18e siècle, quand on est bien né, qu'on appartient à une classe élevée, on ne signe pas parce que sinon ça voudrait dire qu'on est tourné vers des choses matérielles, qu'on ne respecte pas son rang. Mais par ailleurs, elle a envie d'écrire, elle évolue dans un cercle cultivé, elle a Chateaubriand comme ami, donc forcément elle est encouragée dans sa vocation. Il faut aussi dire qu'elle ne sera pas plus encouragée que ça, parce que voilà, c'est là où le bas blesse, être femme et écrivaine, c'est compliqué.
Et même quand on a un ami comme Chateaubriand, il peut d'un coup, quand il voit que l'ami veut se mettre à écrire, il n'est pas non plus très ouvert d'esprit.
Bah, lui, il trouve ça très bien au départ, il a très envie de l'encourager, oui, tant que ça ne n'interfère pas avec ses propres projets à lui, puisqu'elle a un bon carnet d'adresses, Claire de Duras, et il aime bien qu'elle veille à sa carrière de diplomate, on va dire.
Vous nous présentez dans cet ouvrage une quarantaine de femmes qui ont publié en utilisant un pseudo d'homme. La plus célèbre est bien sûr sans doute George Sand. Et le pseudo pour elle, c'est un peu comme une seconde naissance. C'est l'affirmation de son identité d'écrivaine.
Exactement. Alors elle, c'est la personnalité la plus emblématique. Et vous avez tout à fait raison. Elle renaît au monde en devenant George Sand. Elle arrive à Paris par amour, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon. Elle a quitté son mari, ses deux enfants. Non sans mal, parce que c'était quand même une mère extrêmement dévouée et tendre vis-à-vis de ses enfants, mais elle a décidé qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, d'autant qu'elle voulait se séparer de son mari. Et à Paris, elle s'habille en jeune homme, parce que ça coûte moins cher, et comme ça, elle peut regarder le monde autour d'elle et puiser son inspiration et ne plus être toujours celle qui est regardée et qui est une femme dans un espace où elle n'a pas sa place, en fait. Pour elle, l'histoire est assez heureuse, même si, encore à la fin de sa vie, dans sa correspondance à Flaubert, elle dira qu'elle ne se sent jamais, ne s'est jamais sentie à l'aune des grands écrivains.
Autre grande figure emblématique, Colette, qui a d'abord dû signer Willy. Là, c'est un autre cas de figure, hein, parce que c'est son mari qui a exploité sa plume, finalement.
Alors oui, Willy était une personnalité assez hors norme. Il avait créé un atelier d'écriture où il employait tout un tas de gens. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que cette petite jeune femme, qui est évidemment beaucoup plus jeune que lui, qui avait de l'esprit, qui était pétillante, aurait certainement des histoires à raconter. Il lui a demandé de le faire. Au début, il n'était pas enchanté du résultat. Il l'a mis de côté. Puis un jour, par hasard, il est retombé il a ouvert le tiroir, relu le manuscrit. Il s'est dit, mais quel idiot j'ai fait. Et ça a été les Claudines, il y en a eu 4. Et à la fin, à un moment donné, c'était bien gentil d'être derrière elle, de la pousser, voire de corriger à quelques endroits. Mais enfin, c'était quand même son œuvre à elle.
Et ça a été compliqué pour récupérer la paternité de cet homme, la maternité.
Osons le mot maternité, exactement. Oui, c'était compliqué parce que lui, il n'avait pas envie. Il y avait de l'argent derrière, forcément. Il était toujours très, très à court d'argent parce que c'était un homme qui vivait sur un pied élevé. Et puis surtout, ça a été entraîné par leur séparation. Il était aussi, en plus, il avait toutes les qualités, il était volage en plus, donc Colette en a eu assez. Et Colette, il faut aussi se dire que ce n'est même pas son nom à elle, enfin si, c'est son nom, pardon, je le dis mal, c'est son nom de famille, ce n'est pas son prénom, voilà.
On peut aussi citer les Sœurs Bonté, 3 sœurs, 3 écrivaines et 3 pseudos masculins.
Oui, ce que j'adore avec les 3 sœurs, qui est très, très touchant, c'est qu'elles ont pris la peine de faire correspondre les initiales à leurs prénoms, c'est-à-dire Charlotte est devenue Coeurère, Émilie est devenue Ellis et Anne est devenue Acton. Ce ne sont pas les 3 prénoms les plus fréquents de la langue anglaise. Donc ces 3 sœurs sont devenues 3 frères et elles ont pris comme pseudonyme commun Belle.
Il y a des cas magnifiques au hasard. Allez, Jeanne Loiseau qui reçoit le Grand Prix de l'Académie française pour un recueil de poésie, mais quand elle veut sortir de ce simple style de la poésie, elle doit aussi passer par pseudo et la distinction de l'Académie ne suffit pas.
Non, ça suffit jamais en fait. C'est ça qui est terrible. Et moi, je me suis rendu compte au travers de tout l'ouvrage, et je suis contente que vous citiez Jeanne Loiseau, c'est qu'elles ont été oubliées, ces femmes, alors qu'elles ont eu de vraies carrières. Et là, on est quand même bien obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup d'écrivains du 19e, par exemple, qui n'ont pas fait de plus grande carrière qu'elles, ont peut-être été parfois moins distinguées, sont restées dans les mémoires, ont eu des rues portant leur nom. Donc oui, c'est triste parce qu'elle, elle a été reconnue, appréciée, elle s'est battue pour les droits des femmes, pour essayer de créer un espace où elle pourrait aussi être reconnue par la Société des gens de lettres. Donc voilà, sont des histoires évidemment pour certaines heureuses, puisque à la fin elles arrivent à publier, mais en général poussives et difficiles en fait, pour arriver à s'affirmer.
Oui, il y a une quarantaine de femmes en gros présentées dans ce livre. La plupart sont quand même inconnues du grand public. Est-ce que la postérité est misogyne ?
Elle l'est, on va dire qu'elle va l'être de moins en moins, très certainement, en tous les cas on l'espère. Elle l'a été très très souvent. On pourrait dire que le 19e siècle, le long 19e siècle, comme on l'appelle, a été particulièrement misogyne, particulièrement peu ouvert aux femmes. C'est là où ça a été difficile, parce que je répète, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de critiques à leur endroit, beaucoup d'injures, c'est-à-dire quand une femme publiait un livre, immédiatement on voulait constater le manque de génie, le manque de talent, on voulait les ranger immédiatement dans des catégories plus faibles, en tous les cas moins intéressantes que celles dans lesquelles les hommes étaient. La base de tout ça, c'est que tout d'un coup, des femmes sont arrivées dans un espace où il y avait des hommes jusqu'à là, et ils se sont sentis menacés. Mais on va dire que les choses s'arrangent depuis déjà fort longtemps, bien sûr. Mais voilà, soyons vigilants.
Puis il y a des présupposés, vous le dites en conclusion, J.K. Rowling, on lui a demandé de mettre ses initiales parce qu'on partait du principe qu'une histoire de petit sorcier ne pouvait pas intéresser si elle était écrite par une femme.
Mais exactement, et on est au début des années 90, hein, ouais. C'est quand elle écrit, et on a évidemment exactement pensé ça, et est-ce que ça aurait fonctionné de toute façon ? Toute l'histoire de J.K. Rowling était de toute façon tellement hors norme, c'est difficile à dire, mais il y a encore des femmes qui prennent des pseudonymes d'hommes, ça existe, parfois c'est parce qu'elles s'aventurent dans un genre aussi qui n'est pas commun, comme la fantasy ou ce genre de choses. C'est aussi, évidemment, ça sert à se protéger, mais là, on parle de gens qui ont dû se battre, toujours, c'est ça qu'on a envie de dire, en fait.
Il y a une très grosse bibliographie à la fin, et c'est très important parce qu'on a envie, en effet, d'en savoir plus sur ces femmes qui mériteraient tout un biopic, tellement leurs histoires sont extraordinaires. Ce livre, c'est un peu comme un amuse-bouche qui donne envie d'en savoir plus sur elles.
Bah, écoutez, c'est vraiment une jolie manière de le dire, c'est formidable de le voir comme ça, j'espère, parce que moi, j'ai découvert vraiment des œuvres. Alors, des destins, c'est sûr, avec des destins hors normes, de femmes qui ont payé très très cher leur incursion dans le monde littéraire, avec des tours plutôt tragiques. En revanche, il y a des œuvres qui sont restées. Je pense à Ernst Ahlgren, qui a écrit un roman magnifique qui s'appelle L'Argent, qui est un grand roman d'initiation. Elle est suédoise. Elle a beaucoup impressionné Strindberg, voilà, qui s'est servi même de sa mort pour clore une de ses pièces. Et combien d'autres. Alors, on connaît par exemple très peu en France George Eliot, mais qui est une des immenses écrivaines britanniques. Et combien d'autres encore si, je pourrais citer cette femme de l'anticipation qui s'appelle James Tiptree. Alors, c'est son pseudonyme James Tiptree Junior, parce que c'est une coquetterie. Et qui, elle, a été une des premières à faire de l'anticipation féministe. En se cachant, c'est là le paradoxe, effectivement, sous ce nom d'homme, parce que c'était effectivement très difficile.
C'est elle qui a inventé les premiers super-héros, quoi, en gros.
Alors, non, là, c'est une autre, celle-lui. Oui, alors, elle, on peut absolument la mentionner. La première, il y a une femme en 1909, figurez-vous, bien avant Marvel, là, parce que Marvel, on doit être dans les années 30, et 1909, Renée d'Anjou invente Loisel, qui est une femme qui s'est volée, tout faire, et aller à la rescousse des pauvres âmes en peine. Donc, vive cette imagination-là, en tous les cas.
Catherine Sauva, vous signez Ils sont elle, chez Flammarion, l'histoire de femmes à qui l'on n'a pas laissé la possibilité d'être ce qu'elles étaient et que définit ainsi George Sand. Je suis un écrivain, pas une femme qui écrit. Merci beaucoup.
Merci à vous.